voix nue. Cette semaine, Alban Penaranda rencontre Marie-Josée Malice. Ce soir, la Lieventine.
Marie-Josée Malice, bonjour.
Bonjour.
Après vos années d'enfance et d'adolescence à Pézilly-la-Rivière, près de Perpignan, et après un passage en classe préparatoire à Toulouse, vous vous êtes retrouvée un jour à Paris, à l'école normale supérieure de la rue d'Ulm, en lettres modernes. C'était en 1987. Que représentait pour vous cette prestigieuse école avant d'y mettre les pieds ?
Pas grand-chose. J'ai découvert l'existence de la rue d'Ulm quand j'étais en Hippocagne, pendant la scolarité. À un moment, j'ai demandé de quel concours il s'agissait, puisqu'on nous parlait d'un concours. Donc, mes professeurs effondrés se sont rendus compte que j'étais en Hippocagne, mais que je ne savais pas pourquoi. Quand j'ai intégré, donc, on a été reçus par un discours de bienvenue qui nous expliquait qu'on était l'élite de la nation. J'ai essayé de comprendre ce qu'était cette école, mais j'ai eu le sentiment d'avoir sans arrêt couru derrière cette école, en fait, sans jamais réellement m'y sentir à mon aise. Je me sentais comme un imposteur, en fait. J'ai même, l'année où j'ai passé l'agrégation, j'étais persuadée que je ne l'aurais pas et que tout le monde découvrirait mon imposture. Puis j'ai eu l'agrégation très bien classée. Et à ce moment-là, ça s'est calmé, mais au fond, souvent, je me dis, l'école normale supérieure, c'est quelque chose que j'aimerais refaire, maintenant que je sais ce que c'est, quoi. Mais sur le plan des études, je n'en ai pas beaucoup profité. J'en ai profité pour la vie, puisqu'on était payé. C'était merveilleux d'être à Paris dans des conditions pareilles. Et puis, j'avais des amis. Mais l'école, je ne la comprenais pas quand j'y étais. Elle me faisait peur, je crois, au fond. Au fond, je crois que j'étais en état de choc et puis je ne savais pas. Je ne m'en rendais pas compte, en fait.
Selon vous, ces années 80-90 n'ont pas été, rue d'Ulm, de grandes années intellectuelles. Vous parlez d'années réactionnaires, Marie-Josée Malice.
Oui, le sentiment que j'ai, c'est que dans ma discipline, en tout cas dans la discipline de la littérature, il me semble que c'était le moment où, sur le plan de la théorie littéraire, on était en train de revenir à des choses qui avaient plutôt à voir avec l'érudition. C'est-à-dire, on étudiait, il y avait la critique génétique des textes, on regardait les manuscrits, etc. Mais il faut voir qu'on sortait d'années où il y avait eu Roland Barthes, Foucault, enfin. Donc, nous, on était comme dans une espèce de ressac. Il y avait comme une défiance vis-à-vis des maîtres à penser. C'était ce moment-là, quoi, de la vie intellectuelle en France, où finalement, proposer un système de pensée apparaissait comme totalitaire. Et donc, moi, à quelques exceptions près, évidemment, j'ai rencontré de grands professeurs, mais très peu. J'avais le sentiment d'être quand même dans une chose qui était devenue beaucoup plus morne, hein, beaucoup plus morne, et qui nous portait beaucoup moins, en fait, oui.
Et quelles étaient vos relations avec vos condisciples ?
Alors, à Normale Sup, j'avais un statut très particulier. J'étais devenue un peu la mascotte des gens très introduits de l'école. Donc, j'ai un ami, notamment, à qui je rends hommage, qui s'appelle Jacques Le Pape, qui, lui, faisait partie du conseil d'administration de l'école, enfin, qui faisait partie des étudiants parfaitement, comme ça, intégrés, et qui, en un sens, m'avait un peu adopté comme une mascotte, comme une espèce de camarade insolite, justement, provinciale, et très vivante. Je crois que j'étais quand même jeune, je pense que j'étais drôle, en fait. Je pense que j'avais beaucoup, beaucoup de vitalité. Si bien que je pouvais passer comme ça d'un... J'étais à la fois très seule, comme je vous l'ai dit, très peu à l'aise, enfin, très peu consciente de cette école. Et en même temps, somme toute, j'avais beaucoup d'amis, voilà, qui étaient très camarades avec moi. Et j'en conserve encore quelques amitiés, pas très nombreuses, parce que, j'ai essayé, en un sens, de me protéger de cette école, ce qui m'a peut-être, enfin, qui m'a fait rater beaucoup de choses, en fait.
Mais que vous a apporté l'enseignement reçu à Normale Sup ?
C'est l'enseignement de la classe prépa qui était fondamental, qui était un enseignement extraordinairement méthodologique, extrêmement précis, donc qui donne aux étudiants quand même une grande force intellectuelle, une grande capacité à travailler qu'ils ont ça, une grande autonomie du travail intellectuel et une passion aussi, une passion pour la recherche. Ensuite, à Normal Sup, ça s'est prolongé par des séminaires, mais qui n'avaient pas de caractère obligatoire. Et c'est pourquoi je dis que j'ai raté beaucoup de choses, parce qu'il y a des séminaires que je n'ai pas fréquentés, tout simplement parce que j'ignorais qu'ils existaient. Je ne comprenais pas le fonctionnement de l'école. Et personne, je suis un petit peu comme ces enfants des classes populaires qui, je sais pas, arrivant à la fac, ne connaissent absolument pas les codes et mettent des années à comprendre qu'il va falloir choisir un très bon directeur de recherche, choses comme ça. Et moi, j'étais dans un milieu où tout ça était implicite, évidemment. J'étais la seule élève qui était issue d'un milieu à ce point populaire. Je crois qu'il y avait avec moi, mais d'une année avant moi, une fille dont le père était chauffeur de bus. Mais les autres étaient à minima enfants de professeurs. Donc tous ces codes étaient implicites. Donc les études étaient belles, mais je crois que je suis passée un petit peu à côté. Je n'en ai retrouvé la puissance et la vertu que justement l'année où on a préparé l'agrégation, où là, de nouveau, les enseignements étaient très encadrés. Parce qu'on préparait un concours, en fait. Donc là, c'était beaucoup plus... on était pris en charge. Et dès lors, c'était plus simple pour moi, pour m'orienter, en fait.
Concours dont vous êtes sortie troisième.
Oui, oui. Oui, c'était beau parce que, comme je vous l'ai dit, c'était après une grande crise qui a duré un an, où j'avais la conviction de mon imposture. Et pas du tout, et étrangement, même lorsqu'on prépare ce type de concours, on constitue des groupes de travail. Et je me souviens, quand il a fallu constituer ce groupe de travail pour préparer l'oral, ce sont deux camarades qui ont été premier et deuxième, eux. Ce sont deux camarades qui étaient extraordinairement brillants, et que j'admirais, en fait, que je trouvais hors du commun, qui sont venus me demander de faire équipe avec eux. Et là, j'étais très émue, en fait. Je me demandais pourquoi. Je pensais que j'étais une imbécile, une espèce d'abruti par rapport à eux. Qui plus est, je dois dire que j'étais un peu amorale, moi. C'est-à-dire que j'aimais beaucoup travailler, mais je n'étais pas masochiste. J'aimais bien aussi prendre mon temps, faire un peu aussi du hors-piste. Et donc, mon sentiment d'imposture venait aussi du fait que je voyais bien qu'autour de moi, bien des gens se torturaient au travail, et pas moi. Et donc, je me disais que j'allais en payer le prix. Mais je ne comprenais pas, en fait, qu'au fond, c'était une qualité. C'était une qualité de se sentir libre, de construire son propre rapport à l'effort et tout ça.
Et justement, hors piste, durant ces années, qu'avez-vous appris et découvert du théâtre et du cinéma et du reste ?
Bon, alors, comme tous les enfants de province arrivant à Paris, étant étudiant, j'ai été cinéphile, hein. Je me souviens comme ça, voilà, des grands cycles, Bergman, des après-midi passés au cinéma où on peut revoir en boucle un même film, ou ne pas quitter la salle pendant toute l'après-midi. Donc j'ai fait toute ma culture cinématographique ici, j'étais cinéphile, quoi, proprement. Et puis j'allais tout voir au théâtre, tout et n'importe quoi, sans crible non plus, parce que j'avais pas, une fois de plus, les codes. Je me souviens quand je m'étais adressée à une enseignante de Normal Sup, qui était une jeune enseignante, qui était à peine plus âgée que moi, qui s'appelle Anne-Françoise Benamou. Je m'étais adressée à elle pour des conseils, elle s'occupait des cours consacrés au théâtre, d'un séminaire consacré au théâtre. Et quand je lui avais dit ce que j'allais voir, et ce que j'avais joué aussi, les textes que j'avais joués avec Monsieur Coquille, au Diberti, etc. Je pense qu'elle avait trouvé ça complètement naze. Et bon, elle s'est employée à me recadrer un petit peu. Mais c'était le signe, en effet, que j'étais... voilà, je faisais feu de tout bois. J'étais une espèce de voleuse de feu. Je l'ai toujours été dans ma vie. Et je prenais tout ce qui venait avec passion, en fait.
Et quels ont été vos grands souvenirs de théâtre de cette période ?
Ben, c'est Cantor. C'est la découverte du théâtre de Tadeusz Kantor. Il y a eu une grande rétrospective à Beaubourg, au Centre Pompidou, et j'ai vu les pièces, et il y a eu un symposium avec lui. Symposium dans lequel j'avais osé lui poser une question, question d'ailleurs qui m'étonne encore aujourd'hui, parce que je lui avais demandé comment faisait-on pour être un artiste quand... les adversaires étaient devenus beaucoup plus invisibles que les adversaires que lui avait eu à affronter. Et il m'avait donné un conseil terrible, génial et terrible. Il m'avait dit qu'il pensait en effet que ma génération était en danger. Il m'avait dit qu'il pensait que ma génération était en danger parce qu'elle n'avait pas en effet d'adversaire visible, qu'on devait se confronter à des murs de caoutchouc. Et il m'avait conseillé de devenir une grande manipulatrice égoïste. Mais je me souviens qu'après ça, j'étais rentrée dans ma chambre à Normale Sup, puis je m'étais couchée au sol, un peu dans la position des gens qui vont recevoir l'ordination, vous savez, les prêtres ou je sais pas quoi. J'étais restée des heures comme ça, au sol, et je me disais, mais je ne peux pas faire du théâtre. Cet homme est trop grand et je suis... C'est impossible de faire du théâtre après ça. J'étais, je pense, comme un apprenti peintre qui a rencontré Picasso.
Vous dites que Cantor a été pour vous comme l'apparition du théâtre dans ses données élémentaires.
Oui, parce que Cantor faisait tout exister exactement comme ça, en effet. L'apparition des acteurs sur scène, la question même des portes qui s'ouvrent et ce qui sort, la bouche du théâtre qui s'ouvre et ce qui sort, la capacité à symboliser, à construire des images inoubliables et puis qui charriait la mémoire collective de l'Europe d'après la Seconde Guerre mondiale, enfin, possibilité comme ça de traiter la question du siècle avec des éléments, des outils langagiers, symboliques, des codes, sans frontières, en fait, qui s'adressent directement, comme ça, à l'imaginaire collectif, aux affects. Et puis l'humour, et des figures théâtrales élémentaires qui sont presque comme une humanité première, une humanité enfantine, cocasse, burlesque, et en même temps souveraine, perverse, habile, rusée. Il a inventé ça, hein, Cantor, le fait qu'il a pris, comme il l'a dit, sa propre mémoire intime, qu'il a exposée directement au théâtre, et il s'est mis au centre du processus théâtral. Et donc, quand vous assistiez à une représentation de théâtre, il était là, et de temps en temps, sur scène, et de temps en temps, il engueulait les acteurs, et il avait des colères homériques. Si bien qu'on pouvait assister comme ça, en direct, au travail de distribution des intensités, à partir de la centrifugeuse qui était Cantor, à partir du créateur lui-même, en fait. C'était complètement fascinant. Hein. Et c'était comme une purge, au sens de la catharsis, mais au sens où ça faisait un bien fou.
Marie-Josée Malice, à la suite de votre agrégation, vous avez refusé un poste à Yale. Vous regrettez de ne pas avoir accepté ce poste ?
Oui, des fois, j'ai regretté, mais plus presque comme, alors pour le coup, c'est pas un regret très sérieux, c'est un regret, alors pour le coup, un peu revanchard, au sens de, là, pour le coup, c'est mon ouvriérisme, enfin, mon sentiment, quand même, que j'ai été un peu, comment dire, bernée, quoi, que mon ignorance m'a joué des tours, et... Je le regrette pour mes parents, en un sens. Comme si j'avais pas pu honorer toutes les chances qui m'avaient été données. Mais bon, c'est pas sérieux, hein, c'est pas grave.
Au lieu de Yale, avec en poche votre agrég et un DEA consacré à Molière, vous êtes retrouvé en Estonie. C'était dans les années 91-92. Qu'avez-vous fait entre Moscou et l'Estonie dans ces années de démembrement de l'URSS, des années que vous qualifiez d'extraordinaires ?
Extraordinaire, ouais. Bon, j'étais amoureuse. J'avais rencontré un Russe à Paris, alors que j'étais en train de lire « Guerre et paix ». Et donc, j'ai cru que je rencontrais le prince André, bon bref. Et j'ai demandé, je voulais pas, là c'est pareil, j'étais comme ça, cabochard. Donc je voulais pas faire carrière dans l'université française. Je commençais à avoir beaucoup de colère, de suspicion aussi, vis-à-vis de la carrière universitaire. Et je suis tombée amoureuse d'un Russe. Qui était plus âgé que moi, un homme très émouvant, l'homo soviéticus, en plein chaos de l'Union soviétique. Et donc j'ai demandé au ministère des Affaires étrangères si je pouvais partir en Russie. Avec le sens géostratégique de l'époque, ils m'ont envoyé dans les pays baltes. qui considérait être encore comme une espèce de satellite de l'Union soviétique, alors que l'Estonie était en train de négocier, était devenue un pays indépendant. Et donc j'étais écartelée entre l'Estonie et Moscou, où j'allais rejoindre Igor, qui lui vivait un chaos, alors l'explosion de sa vie en fait, voilà, l'explosion de sa vie. Et alors c'était génial, parce que c'était le moment où l'URSS se décomposait, mais existait encore. Donc il y avait tous les cadres de la vie soviétique, les cadres administratifs, les queues devant les magasins, le peuple russe, la foule russe, extraordinaire, foule du 19e siècle, enfin. Et en même temps, commençait à arriver la sauvagerie capitaliste. Les choses se détruisaient. Il y avait les privatisations. Il y avait, moi, j'ai assisté à l'arrivée de la mafia. C'était fou. Et ça, alors, pour le coup, peut-être que je ne suis pas allée à Yale, mais ça m'a permis de vivre l'épisode le plus structurant de ma vie, au fond. Le grand voyage, quoi.
Vous dites avoir cramé votre carrière universitaire. À votre retour en France, vous avez enseigné dans des collèges et des lycées de banlieue que l'on qualifie de sensibles. C'était encore au début des années 90. Je cite ce que vous m'avez dit de cette expérience. « Je ne comprenais pas ce qui se passait dans ces établissements. Tout me paraissait être voué au désastre. J'avais honte pour nous tous. » Après vos propres années de lycéenne et d'étudiante, cet état des lieux de l'enseignement était-ce pour vous une découverte ?
Oui, c'était une vraie découverte. Et ce que je ne comprenais pas, c'est que, évidemment, c'était, les élèves étaient en grande difficulté, hein, ils avaient de grandes difficultés. Mais moi, j'étais une jeune prof et je n'avais aucune espèce de problème avec les élèves. J'aimais beaucoup la classe. J'aimais beaucoup la classe, il y avait beaucoup de chaleur. Avec les enfants, on arrivait à établir comme ça des contrats extraordinairement intelligents, beaucoup d'humour et de confiance. Enfin. Et ce que je ne comprenais pas, c'était en revanche tout l'appareil de défiance, l'appareil sécuritaire environnant, les positions disciplinaires... les échecs aussi de certains de mes collègues qui construisaient au fond la légende d'enfants qui vouaient à l'échec parce que les enseignants eux-mêmes étaient en échec vis-à-vis d'eux. C'était aussi les premières années où se passaient des choses un peu brutales en fait, où la moindre bagarre dans la cour de récréation était qualifiée de porte ouverte à la délinquance. Enfin, donc les enfants comme ça étaient envisagés vraiment sous le sceau d'une défiance et d'une séparation avec les adultes. Moi, j'avais souvent l'impression, et je n'étais pas la seule, hein, je ne dis pas que j'avais une gloire particulière, hein, j'avais souvent l'impression d'arriver à construire quelque chose avec les enfants, dans une grande précarité, mais qu'on arrivait à avancer, et puis que c'était détruit dans le cours suivant, ou c'était détruit parce que voilà, l'administration, tout d'un coup, réinstaurait une violence. C'était très étonnant.
Et c'est à peu près à ce moment-là, durant vos années d'enseignante, qu'arrive la Lieventina dans votre vie. La Lieventina qui allait devenir votre troupe. Comment ça se passe au départ, Marie-Josée Malice ?
Moi, je faisais du théâtre amateur. Je ne savais pas qu'il y avait des écoles de théâtre professionnel. J'ignorais leur existence, donc je n'ai jamais cherché à les rejoindre. Et je faisais du théâtre amateur avec des amis. On s'amusait beaucoup. Tous les étés, on faisait du théâtre. Et puis... une année, donc, un ami, enfin une connaissance, disons plutôt, qui s'appelle Olivier Schulzinger, qui est assez célèbre puisqu'il est le créateur de la série Plus belle la vie. C'était un Perpignanais, comme moi. On n'était pas dans le même lycée, hein, c'est pour ça qu'on ne se connaissait pas très bien. Donc lui avait écrit des pièces de théâtre, et pour une des pièces de théâtre, il avait obtenu l'aide à l'écriture, enfin, l'aide à la création du ministère de la Culture. Et il cherchait un metteur en scène. Il avait besoin qu'un metteur en scène mette en scène professionnellement son texte pour pouvoir bénéficier de sa bourse. Et de Guerlas, après avoir demandé à plusieurs metteurs en scène qui se sont désistés, il m'a demandé si je voulais bien faire ça pour lui. Et il a créé, c'est lui qui a créé ma compagnie. C'est lui qui a choisi le nom, la Lieventine. C'est lui qui a aussi fait le premier casting. Chercher des acteurs professionnels. En fait, c'est lui qui m'a professionnalisée. Et donc c'était moi la metteur en scène. D'ailleurs, quand les acteurs étaient un peu énervés, ils m'appelaient Joseph Staline. Donc j'avais comme ça ce rapport quand même, hein, comme ça à la mise en scène, au sens du pouvoir aussi. Et simplement, Olivier, lui, m'a fait passer un stade professionnel, rationalisé. On a eu nos premières subventions.
Et quand vous évoquez vos années Liventina, vous insistez toujours sur l'importance qu'a eu un homme sur la vie de cette troupe et dans votre propre existence. Cet homme disparu depuis, c'était Antoine Sarda. Qui était-il et que lui devez-vous ?
Antoine Sarda, c'était un élu communiste, maire d'un village qui s'appelle Estagel, à côté de mon village. Et il avait créé dans son village un festival de théâtre tout à fait étonnant, où il y avait des Italiens qui venaient, des Espagnols, enfin, avec un festival d'une grande richesse. Et Antoine, c'était... il était passionné par les arts, par le théâtre en particulier, et par l'opéra. Et c'est lui qui a financé notre premier spectacle avec Olivier, c'est lui qui a permis que le premier spectacle de la Liventine ait lieu, donc qui a été créé à Estagel. Et ensuite... Antoine, il avait un caractère un peu fou, il était démesuré, d'une générosité sans borne, et comme un vrai communiste, au sens où il cherchait réellement la transformation de la vie, hein, la transformation des choses, quoi. Il était très enjoué aussi, très drôle, on faisait énormément la fête avec lui, il nous faisait boire énormément, un côté presque pantagruélique comme ça. Après la première création, il m'a demandé de revenir, et puis il m'a fait venir tous les ans. Alors qu'il avait pris la présidence de la commission culture du département des Pyrénées-Orientales, il m'a demandé de venir le seconder pour créer le service théâtre du département des Pyrénées-Orientales. Donc j'ai travaillé à ses côtés sur un plan administratif. Mais en fait, il m'a énormément aidé. En fait, je lui dois d'avoir... il avait une confiance totale en moi. Et il a donné à notre compagnie des moyens inédits, hors du commun. Il nous a permis de vivre du théâtre. Et surtout, dès que je lui suggérais quelque chose, par exemple, à un moment, je lui dis « Antoine, il faut créer une école de théâtre. » Je me souviens très bien, il m'a demandé « Combien ça va coûter ?» Je lui ai dit « Je sais pas, peut-être 500 000 euros. » Il m'a dit « Bingo !» C'était comme ça avec lui. C'était magnifique. C'était l'alliance dont on rêve toujours entre les intellectuels, les artistes et les politiques. Il se laissait complètement inspirer par les visions des artistes. Et il pensait que la politique, c'était ça. C'était mettre en place les cadres qu'il fallait pour que des visions réelles puissent avoir lieu.
Et comment, concrètement, matériellement, de quoi vivait la troupe et de quoi viviez-vous vous-même ? De l'enseignement, Marie-Josée Malice ?
Au départ, oui. Au départ, je suis restée professeure à temps partiel et puis je n'avais pas de salaire qui naisse de la troupe. Et puis quand je suis descendue à Perpignan, donc j'ai travaillé d'abord sur le plan administratif, à créer des cadres d'une politique culturelle, et au bout d'un an, j'ai dit « Antoine, écoutez, je crois qu'on a bien travaillé, on a créé les cadres, mais maintenant, moi, je voudrais faire partie des gens qui mettent en œuvre artistiquement ces cadres. » À ce moment-là, il y a eu un accord avec le ministère de la Culture et le département, et donc on a été subventionnés de manière assez sérieuse, si bien que moi, j'ai pu devenir intermittent du spectacle et rejoindre donc mes amis comédiens, qui, eux, étaient intermittents depuis le début. Voilà, et on vivait bien. On vivait bien au sens où on avait des moyens pour travailler, on avait un lieu. Et en même temps, on était un peu en orbite, on était comme ça, totalement protégés à Perpignan, faisant des expérimentations très très audacieuses. On a créé une école, on faisait des expérimentations artistiques, et sur lesquelles personne ne nous demandait des comptes. Et à un moment, quelqu'un du ministère... qui était un peu sévère, mais qui nous a rendu service, nous a dit « ça peut pas continuer comme ça, ça va mal tourner. Pour l'instant, c'est très beau, mais à un moment, votre aventure va tourner court parce que vous n'êtes pas introduit dans le circuit de la diffusion nationale, en un sens. Et donc, ça ne peut pas durer. » Et cette personne qui était conseillère théâtre, il s'appelait Monsieur Loubière, a menacé de nous couper nos subventions si on ne devenait pas une compagnie à rayonnement national. Et c'est comme ça que j'ai cherché à faire exister notre théâtre auprès de théâtres qui étaient ailleurs qu'à Perpignan.
Et justement, comment réussit-on, alors qu'on travaille en province, loin de Paris, comment réussit-on à faire savoir qu'on existe, à se faire connaître, à faire connaître son travail ?
Moi, j'ai fait quelque chose de très simple. J'ai pris un stylo et j'ai écrit des lettres très très précises, très sincères, très circonstanciées aussi, à des directeurs de théâtre dont j'admirais la programmation. Et j'ai fait le pari que c'était en s'adressant vraiment aux gens que peut-être je serais entendue. Donc vous savez que c'est très concurrentiel, hein, c'est un secteur qui est saturé en fait. Et il y avait à la fois naïveté et ruse de ma part. C'est-à-dire que j'avais confiance dans le pouvoir de la parole. Je savais qu'une parole réelle, en fait, pas formatée, pouvait espérer trouver un auditeur. Et ça a marché, en fait. Ça a marché auprès de quelques journalistes. René Solis, Jean-Pierre Thibaudat, enfin, quelques journalistes qui ont reçu les lettres, qui sont venus voir le travail. Et ça a marché aussi auprès de grands directeurs de théâtre qui ont dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Après, il y avait un peu de ruse parce que je savais qu'il y avait un petit coefficient plouc, si je puis dire, qui allait fonctionner au sens où les programmateurs adorent découvrir des artistes qui seraient méconnus en province, en fait. Donc, j'ai joué de ça aussi avec humour. Je ne m'en suis pas caché, hein. En disant peut-être que je suis une petite perle de province à découvrir, auquel cas ce serait à votre bénéfice. Et voilà, mais ça s'est passé comme ça. Hein,
par... Et les spectacles se sont alors enchaînés.
Oui.
Oedipe, Enter the Ghost, d'après Pasolini, Le Prince de Hambourg.
Oui, ça s'est enchaîné de manière très, très fluide. Et c'était des spectacles très intéressants parce que, on était devenus des chercheurs, en fait. On était devenus... Moi, je me suis passionnée pour la direction d'acteurs. Et puis, je pense quand même que je suis une sorte d'absolutiste au théâtre. Hein. Je cherche toujours à faire que le théâtre réapparaisse, se redéfinisse. À chaque spectacle, que quelque chose du théâtre se redéfinisse. Et donc, chaque spectacle était un peu, je pense, frappant et étonnant. Donc, des spectacles imparfaits, vraiment, mais qui avait une sorte de substance très intense, en fait. Donc là, je suis entrée dans la passion du théâtre, hein, un petit peu comme Vitez et d'autres, enfin, cherchant réellement à mettre à jour les coordonnées d'un théâtre que je puisse transmettre, comprendre, et surtout porter avec les acteurs, que les acteurs puissent penser avec moi. Je voulais les associer à la pensée de la chose.
Merci Marie-Josée Malice.
Merci.
À demain.
À demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre d'Alban Penaranda avec Marie-Josée Malice. À voix nue. Réalisation Guillaume Baldi, prise de son Yann Fressy, attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.